élections 2023 sur Radio Capi. Invité candidat président.
Monsieur Adolphe Mouzito, bonjour.
Bonjour.
Nous nous entretenons avec vous sur les grandes questions que se pose la population congolaise, des questions liées à la gouvernance, à la sécurité, au développement économique et au social. Je ne suis pas seule, je suis Jocelyne Moussaou, je suis avec mon collègue Guy Maté. Guy, bonjour.
Bonjour Jocelyne. Oui, Adolphe Mouzito, candidat numéro 24. À la présidentielle de 2023, on peut savoir pourquoi vous avez postulé.
Ah, merci beaucoup d'abord pour l'occasion que vous me donnez de m'exprimer en face du peuple congolais. En fait, moi, je suis de famille d'origine modeste. Je suis né en fait au village. Et c'est extraordinaire. C'est grâce à l'État congolais que j'ai réussi à avoir un diplôme de l'université en sciences économiques. À partir du village, j'étais pris en charge sur le plan scolaire par l'État. J'ai fait l'école primaire, ensuite je suis venu à Kikuit pour le secondaire. Et là, j'ai eu la chance d'étudier dans une athénée. Vous savez, à l'origine, l'athénée, c'était pour les Blancs. Et les Bandundu a quand même eu cette opportunité, historiquement parlant, d'avoir beaucoup d'écoles, des jésuites, et puis des athénées, vers les années 60 déjà. Et en arrivant là-bas, mon oncle m'a fait inscrire. On n'a jamais rien payé pour ces études-là jusqu'à ce que j'ai terminé. J'ai obtenu le diplôme. Et dès là, je suis venu à l'université de Kinshasa où j'ai été pris en charge par l'État congolais. Je n'ai jamais payé les études. Bien au contraire, l'État nous payait et nous nourrissait. J'ai terminé et là, j'ai fait les sciences économiques, évidemment, option économie publique et industrielle. J'avais l'ambition de servir l'État. En fait, c'est l'essence même de cette option-là. Et quand j'ai fini, j'ai été admis à l'inspection générale des finances. Donc, j'étais en plein dans l'État. Ma préoccupation, c'était servir l'État en récompense à ce que j'ai reçu comme enseignement gratuitement, ce qui ne serait pas possible avec la situation sociale de ma famille. Voilà, c'est le sens des responsabilités. Là encore, j'ai lutté à côté de M. Antoine Gizenga. Et nous avons réussi à avoir le pouvoir, je me suis engagé et j'ai eu l'opportunité d'être désigné Premier ministre à l'époque par M. Kabila, le président de la République. J'ai exercé des hautes fonctions de la République, mais j'ai senti comme si je n'étais pas arrivé à ma satisfaction ultime, celle de relever l'économie de notre pays. À partir de là, je me suis dit, bon, il faut continuer pour servir la nation. Voilà comment les choses se sont passées. Je me sens la responsabilité de continuer cette tâche-là, afin d'aider mon pays, et c'est dans ce cadre que je me suis fait candidat. Du moins, j'ai été désigné par les militants de mon parti comme candidat à la candidature.
Rêver l'économie du pays, gouverner, ce sont entre autres des indicateurs de la bonne gouvernance, état de droit, maîtrise de la corruption. Mais on sait que la RDC est très souvent mal cotée sur ce point-là. Il y a plusieurs rapports qui le relèvent, la Banque mondiale entre autres, Mo Ibrahim et les autres. Que comptez-vous faire pour modifier la donne si jamais vous êtes élu président de la République?
Je vais modifier la donne, déjà me remettant moi-même en cause. Il faut que je donne l'exemple. Mais cela passe aussi par une motivation en faveur du personnel de l'État et je voudrais par tous les moyens créer le maximum de richesses en investissant principalement dans les domaines agricoles. Voyez-vous, notre pays, quand vous regardez la croissance d'aujourd'hui, nous avons fait une croissance en 2022 autour de 8%. Mais seulement, il se trouve que quand vous regardez la structure de ces 22%, les gros 90%, c'est les secteurs miniers qui contribuent à cette croissance. Les secteurs agricoles est très faible, les secteurs industriels est aussi faible. Et moi, je voudrais diversifier l'économie. En diversifiant l'économie, je voudrais que la croissance soit porté, y compris par les secteurs agricoles. Mais pour cela, il faut principalement investir dans les infrastructures de base, c'est-à-dire les routes, l'électricité, le chemin de fer, etc., de manière à ce qu'on désenclave l'arrière-pays et que l'économie agricole, essentiellement, qui couvre le gros de notre population, puisse être relancée. C'est à partir de ce moment-là, au fur et à mesure qu'on va réaliser la croissance, qu'on va redistribuer la richesse dans l'économie et dans le peuple, mais surtout qu'on va bien payer les fonctionnaires, ceux d'en bas, parce qu'aujourd'hui, ceux d'en haut se servent essentiellement. Si vous regardez le budget de rémunération, plus ou moins la moitié est consacré à la rémunération des gens d'en haut, qui ne sont que 20% des effectifs de l'État. Il faut changer les choses. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut couper le salaire des gens d'en haut. Les avantages acquis les sont et les resteront. Par contre, il y a l'opportunité au courant des 5 prochaines années et jusqu'à la 10e année, si je suis encore au pouvoir ou si je fais partie de ceux qui sont au pouvoir, de faire en sorte qu'on augmente de plus en plus les gens d'en haut, mais aussi qu'on augmente l'enveloppe salariale dans la structure globale du budget de l'État, budget de l'État à l'interne. C'est alors que de plus en plus, on va lutter contre la corruption par la motivation, mais aussi lutter contre la corruption en relançant les secteurs, si vous voulez, de la justice, motiver aussi les magistrats. Vous vous souvenez, je suis le premier à avoir doublé les salaires des magistrats qui étaient à 450, je l'ai porté à 1 000 $. Et je voudrais augmenter de plus en plus pour épargner les juges, les magistrats, afin qu'ils fassent le travail qui consiste à sanctionner les fautifs. Pour que désormais, quand quelqu'un est attrapé la main dans les sacs, quand quelqu'un a commis une faute ou a commis une infraction, quand il est arrêté, non seulement il est poursuivi sur le plan pénal, mais aussi sur le plan civil, en ce qu'il faut lui récupérer. L'État doit récupérer le bien que celui-ci a volé.
Oui, vous recueillez un maximum de richesses. On sait que l'une des parties du pays qui détient des potentialités pouvant permettre de créer ce maximum de richesses, c'est la partie est du pays, qui connaît des guerres interminables. Et par rapport à cette crise de l'Est, on se rappelle qu'il y a 3 ans, vous avez proposé 2 solutions radicales. La première, c'était faire la guerre au Rwanda, et qui avait suscité même des réactions négatives dans la classe politique, vous vous rappelez. Et la deuxième solution, c'était ériger un mur de séparation entre les Rwandais et la RDC. Est-ce que vous maintenez cette position radicale ou vous avez évolué? Et si vous avez évolué, qu'est-ce que vous proposez pour solutionner cette crise de l'Est?
Je n'ai pas évolué parce que la situation elle-même n'a pas évolué. Le principe, c'est que quand on vous attaque, vous devez vous défendre. Généralement, chez nous, la presse, vous confondez la sécurité et la défense. La sécurité, c'est à l'intérieur. Et nous devons aussi y travailler parce que nous avons une délinquance juvénile qui s'élargit aussi bien dans la ville de Kinshasa qu'à travers le pays à cause de la misère, du chômage qui frappe les jeunes. Mais maintenant, s'agissant de la défense, nous devons nous préparer à faire la guerre au Rwanda. Les Rwandais et chez nous, ils ont occupé des portions de terre importantes. Il nous faut faire la guerre au Rwanda. Mais quand je dis faire la guerre, c'est-à-dire se préparer à faire la guerre si les Rwandais ne veulent pas sortir de notre territoire. Nous proposons une solution. Cette solution, elle a toujours existé. Elle n'a pas été mise en application. Et d'ailleurs, le contexte actuel ne permet pas de la mettre en application. C'est la CPGL. Travailler ensemble avec les Rwandais, exploiter les richesses que nous, les Congolais, on a. S'ils viennent avec les rapports, on peut créer des entreprises à l'aise sur cette partie-là, avec la communauté internationale, avec le monde capitaliste d'ailleurs, qui instrumentalise les Rwandais et l'amène à nous attaquer. Derrière les Rwandais, il y a les multinationales. Mais il faut négocier avec les puissants pour les dire, ben, les richesses du Congo sont là. Les Congolais ne demandent pas mieux qu'à ce qu'on les exploite et qu'on gagne, comme on dit, win-win. Le Rwanda trouvera son compte en tant que voisin, pays voisin, dans l'exploitation commune de ses richesses dans le cadre de la CPGL. On n'aura pas besoin de faire la guerre parce qu'ils nous font la guerre pour prendre les richesses qu'ils auraient pu avoir tout à fait normalement dans le cadre de la coopération. Donc je parle de la guerre pour dire nous devons nous défendre. Mais maintenant, avant de faire la guerre, vous allez dire aux partenaires est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles nous pouvons faire le Rwanda? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver un compromis? Mais ça, vous ne pouvez pas l'obtenir si vous n'êtes pas en position de défense et que vous n'êtes pas fort, que vous n'avez pas une armée. La diplomatie ne fonctionne qu'en faveur de ceux qui ont une armée. Et donc, nous devons renforcer notre armée. Nous devons nous mettre en position de nous défendre. C'est alors que le Rwanda va comprendre, y compris les partenaires extérieurs qui se cachent derrière le Rwanda. Mais tout cela en montrant que nous sommes bien disposés à collaborer, à coopérer ensemble pour que le Rwanda ne cherche pas à avoir frauduleusement par la force ce qu'il peut obtenir par la paix, mais à condition de comprendre qu'il ne faut pas faire la guerre et qu'ils doivent se retirer.
Oui, justement, le renforcement des capacités de l'armée, c'est un projet de longue haleine. Hein.
Et pendant ces temps,
les pays sont occupés, hein. Pendant ces temps, les rebelles sont en train d'avancer. Qu'est-ce que vous faites dans l'immédiat?
J'arrive au pouvoir, je demande au Rwanda à travers la communauté internationale de dire voilà, moi je suis au pouvoir, nous faisons la guerre ou nous faisons la paix. Nous proposons ça, ça, ça. Notamment nous proposons que nous puissions mettre en exploitation les richesses qu'on a, au lieu que vous veniez les prendre par la force en tuant. Les richesses sont là, négocions, discutons, investissons ensemble. En fait, le Rwanda ne sera qu'un relais. En vérité, nous serons en face de la communauté.
On a l'impression que c'est la même démarche qui a été menée, qui a été tentée par l'actuel président. Mais bon, vous savez à quoi cela a abouti.
Nous sommes d'accord, mais il ne l'amène pas en ayant la force véritablement. Il est peut-être en train de construire la force armée. Vous voyez ce que je veux dire, les forces armées. Il faut renforcer les. C'est pourquoi je demande qu'on mette de l'argent et beaucoup d'argent. Je proposais 1 milliard et je pense que nous mettons chaque année 1 milliard pour équiper l'ensemble du pays, mais particulièrement l'est du pays. Je crois que les Rwandais eux-mêmes vont reculer et les puissants aussi vont reculer.
Les richesses du pays, vous l'évoquiez tantôt, mais les développements économiques de la RDC ne reflètent pas justement cette diversité des richesses du pays que nous avons sur le plan minier, hydrographique et même démographique. Avez-vous un plan pour opérer ce qu'on peut appeler le miracle congolais ?
Le miracle congolais, il n'y a pas de miracle, les choses sont évidentes. D'abord, ne comptons pas que sur les mines. Même si nous multiplions par 4 les richesses minières, le gros de cet argent, 90%, ça ira. Parce que ce n'est pas nous qui extrayons, ce n'est pas nous qui transformons. Encore que même les puissants, les multinationales qui exploitent nos richesses minières ne les transforment pas ici. Ils les amènent là-bas. Notre objectif consiste à dire, exploitation minière, oui, mais surtout utiliser, faisons en sorte que la part, le gros de notre richesse reste ici. Non seulement en tant que cash flow nous revenant à nous, mais aussi en tant que réserve d'échange. Il faut au moins 50% des réserves d'échange qui doivent rester ici. Non pas que ces réserves vont nous appartenir, mais qu'elles vont appartenir à ceux qui ont créé la richesse, enfin leur part, de manière à ce qu'on utilise cet argent pour financer les importations, couvrir nos besoins d'importation, de manière à ce que la monnaie ne se déprécie pas comme c'est le cas aujourd'hui. Vous voyez le franc congolais, comment il est en train de glisser à la baisse, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de devises pour financer nos importations. Donc il y a ces problèmes que les multinationales non seulement laissent que des miettes ici, parce que dans la structure, comme je vous ai dit, de la croissance, vous allez voir 90% de notre croissance vient des minerais. Or, les minerais, quand ceux qui investissent là-dedans, le gros, ils rapatrient vers leur pays. Et nous n'avons pas assez de devises pour importer. Nous sommes obligés de nous battre sur le marché de change. Ce que ça entraîne, c'est la hausse du cours du dollar. Donc, j'insiste pour dire que, oui, minerais, investissons avec les autres, mais travaillons sur deux objectifs. Un, faire en sorte que nous puissions transformer ces minerais, que la valeur ajoutée puisse se réaliser au Congo et qu'une bonne partie de la richesse reste au Congo. Battons-nous aussi pour que les exportations, l'argent qui vient des exportations, une partie soit rapatriée au pays pour que nous ayons suffisamment de matelas, de devises pour financer nos importations. Troisièmement, il faut distribuer, plutôt diversifier l'économie pour qu'une partie de ces réserves qui nous reviennent à nous, mais une partie aussi du cash flow qui nous revient à titre d'impôts et autres revenus domaniales, que nous puissions orienter ça vers l'agriculture pour produire au pays ce qu'aujourd'hui nous importons. Et en cela, nous sommes obligés d'utiliser le peu de devises que nous avons pour importer à manger, alors que nous devons les utiliser pour nous équiper. Eh bien, faisons en sorte que l'économie se diversifie, orientons une partie de nos moyens, nos recettes fiscales et autres, orientons ça vers les équipements agricoles et autres, faire des routes, les routes de dessert agricoles, routes nationales, routes provinciales, de manière à ce que de plus en plus, nous puissions faire des économies de devises en produisant à l'interne ce qu'aujourd'hui nous sommes en train d'importer, surtout dans les domaines agricoles.
Mais en dehors des mines, de l'agriculture, la RDC dispose de plusieurs potentialités, notamment le tourisme qui aujourd'hui constitue un secteur qui rapporte beaucoup à plusieurs pays
au monde. Je suis d'accord
avec
vous, madame.
Mais que comptez-vous faire en dehors de ces secteurs? Est-ce que vous pensez aussi aux mines et à l'agriculture? Est-ce que vous pensez aussi développer d'autres secteurs? Nous avons les secteurs aériens qui offrent beaucoup de potentialités aussi à la RDC. Pensez-vous aussi à cela?
Oui, merci beaucoup. En fait, vous donnez de l'eau à mon moulin. Je suis d'accord que le secteur touristique devrait nous rapporter beaucoup, beaucoup de devises. Parce que nous avons des parcs impossibles dans ce pays. Mais il y a des parcs que nous devons délocaliser pour les amener à l'ouest, ici dans la forêt équatoriale, pour exploiter aussi ce que nous avons comme potentiel dans le domaine pétrolier. Mais là où nous les maintiendrons, il faut les entretenir, il faut sécuriser pour qu'il y ait beaucoup de devises. Des rentrées de devises, je suis d'accord avec vous.
L'un des facteurs qui ne permettent pas à l'économie congolaise de pouvoir, n'est-ce pas, connaître son décollage, c'est cette panoplie des contrats qui sont considérés comme étant des contrats léonins. Et parmi ces contrats, il y a ces contrats sino-congolais. Et si, une fois que vous êtes au pouvoir, qu'est-ce que vous faites par rapport à tous ces contrats? Est-ce qu'il faut renégocier? Est-ce qu'il faut les maintenir tels que, en fait, les maintenir à l'État? Qu'est-ce que vous comptez faire?
Oui, si je suis élu, ce contrat-là doit faire l'objet d'une renégociation. D'abord, le premier principe, c'est que les Chinois doivent nous payer notre argent. Ils nous doivent aujourd'hui 2 milliards d'euros, en plus des intérêts débiteurs et des intérêts de retard d'ailleurs. Parce qu'en fait, ce contrat-là, nous l'avons signé en 2009. Moi, je suis de ceux qui l'ont signé, même si de temps en temps, les amis de l'époque le cachaient. Ce contrat-là, c'était 9 milliards de dollars. Bon, la communauté internationale...
C'était à l'époque du gouvernement Gizenga, votre gouvernement?
Oui.
Vous étiez ministre des budgets à l'époque?
Oui, j'étais ministre du budget, ensuite premier ministre. Et les discussions continuaient toujours, même si on me les cachait un peu, hein, parce que, ça c'est des questions qui relèvent de l'histoire. On aura l'occasion peut-être d'en parler, mais le plus important c'est de retenir qu'on est passé de 9 milliards à 6 milliards à la demande de Strauss-Kahn, les FMI qui a considéré que c'était trop lourd. Nous sortions du désendettement, on était à 14 milliards de dettes, on a annulé 9-10 milliards, on était à 4 milliards, on pouvait s'endetter, mais pas au-delà d'un certain niveau. Il est temps pour nous de nous remettre en place et de créer les conditions du remboursement du nouvel endettement. C'est ainsi qu'on est passé de 9 à 6 milliards. Donc 3 milliards, c'est en fait une dette pour qu'on finance l'exploitation minière et les 3 milliards pour faire les routes, les universités, etc. Les 3 milliards ont été nos partenaires chinois dans le cadre des Sicomines, les ont décaissés et on a commencé l'exploitation minière. Mais maintenant, les 3 milliards, ils ne nous ont toujours pas donné, sauf un tout petit peu, évidemment, j'étais déjà parti, plus ou moins 800 millions sur 3 milliards. Et les 800 millions ont financé quelques infrastructures qui étaient surfacturées, tout le monde le sait. En fait, ils n'auront décaissé que moins de 400 millions. L'autre moitié serait relevée de la surfacturation. Mais les 2,2 milliards n'ont jamais été décaissés en notre faveur. La bêtise que nous avions faite, c'était de faire qu'à chaque fois, les décaissements se fassent au profit des Chinois eux-mêmes et qu'eux exécutent les travaux ici. Donc l'argent, c'était pour eux, le travaux, c'est eux qui devaient le faire. Ils n'ont jamais fait ce travail. Alors ce que nous demandons, en fait, Sicomine a commencé l'exploitation, doit avoir déjà en principe à ces jours fini de rembourser cette dette-là, alors qu'elle n'a pas été décaissée pour nous. Donc on a eu un coût d'opportunité important. Aujourd'hui, nous aurions déjà la route numéro 1 terminée. Nous aurions la route numéro 2 nationale terminée, la troisième qui devait relier l'ouest à l'est. Ce n'est pas le cas. Donc c'est un coût d'opportunité pour nous. Moi, je pense qu'il faut négocier cette dette pour que les Chinois nous remboursent et peut-être que nous puissions récupérer la mine parce qu'elle est totalement, la dette elle-même, elle a déjà été amortie.
Voilà. Un autre chantier sur lequel on vous attend, c'est le secteur de la santé. Et vous voyez comment les gens souffrent quand ils tombent malades pour être pris en charge. L'actuel gouvernement a proposé ce qu'on appelle couverture santé universelle. Une fois le numéro 24, M. Adolphe Mouzito, au pouvoir, qu'est-ce qu'il ferait pour essayer de relever ce secteur-là de la santé?
Oui, le problème, c'est qu'il faut être systémique. Vous ne savez pas améliorer le secteur de la santé si le budget ne suit pas. En termes de recettes ou de crédits à destiner à ce secteur-là. Vous ne savez rien faire si dans l'entretemps, la production nationale n'augmente pas pour que le prélèvement fiscal aussi augmente et qu'il y ait suffisamment d'argent pour vous orienter dans les différents secteurs. Et tous les secteurs s'étiennent. Ça ne sert à rien de penser que vous pouvez améliorer un secteur. Si l'autre n'est pas amélioré, il y aura des répercussions sur celui que vous tentez d'améliorer. Donc, augmenter le budget de l'État, c'est dans mon programme. Orienter maintenant une part de ce budget au niveau de la santé, il y a les hôpitaux qu'il faut réhabiliter et les construire en quantité ou en nombre suffisant. Il y a le médecin eux-mêmes qu'il faut bien payer. J'insiste beaucoup sur le paiement de médecins. Moi, je pense que j'ai comme projet d'augmenter le médecin jusqu'à 5 000, petit à petit. 5 000 $ pour un médecin, 6 000 $ pour un prof d'université. J'ai un plan et le budget de l'État le permet. Si nous l'augmentons, par exemple, il est aujourd'hui à 10 milliards en ressources propres. Moi, je prévois de l'amener à 20 milliards dans 5 ans. Et 40 milliards dans 10 ans, il y a moyen de payer le médecin correctement, de réhabiliter les hôpitaux, d'en construire d'autres, et les personnels aussi pro-santé, c'est-à-dire les infirmières, les laborantins, tous les autres personnels qu'il faut dans chaque hôpital. Aujourd'hui, on a un peu plus, mais en tout cas, on a plus ou moins 2500 Congolais pour un médecin, c'est excessif. Le principe veut que nous ayons 10 000 Congolais pour un médecin, On a beaucoup de médecins, sauf que plus de la moitié se retrouve à l'arrière-pays, Kinshasa. À elle, elle absorbe plus de la moitié de médecins, ce qui est déjà une anomalie. Il y a plus de médecins qu'il y a d'hôpitaux, plus de médecins qu'il y a de malades ici, alors qu'à l'arrière-pays, c'est le contraire. Dans les secteurs privés aussi, il y en a. Et je pense qu'il y a une partie du secteur privé qu'il faut amener au secteur public et améliorer leurs salaires, les mettre dans des bonnes conditions de travail. Et je crois que nous pourrons avoir de bons résultats. Mais tout ça doit se faire dans un cadre d'ensemble. Vous ne pouvez pas améliorer la situation des médecins sans améliorer celle des pro-santé. Vous ne savez pas améliorer la situation de la santé si vous n'améliorez pas celle de l'agriculture. Tout se tient. C'est toute une politique globale qu'il faut avoir pour améliorer les conditions de tout le monde. Mais ces conditions, vous ne les améliorez pas s'il n'y a pas augmentation de la production. Il faut que la production augmente et que sur cette production, vous puissiez prélever un budget de l'État qui permette de financer toutes ces dépenses à charge du trésor public.
Monsieur Adolphe Mouzito, comment se présente votre projet de société en ce qui concerne l'éducation des jeunes, l'enseignement des bases et universitaires?
Oui, ce n'est pas mon projet de société. Si vous voulez mon programme, oui, mon programme prévoit la formation de la jeunesse dans le domaine de l'enseignement. Si vous me permettez de vous donner la cartographie pour vous montrer combien la bombe dans ce secteur-là est atomique, si vous permettez l'expression. Prenez l'histogramme du pays. Nous sommes 120 millions d'habitants. Vous prenez plus ou moins 100 habitants dans un quartier ici à Kinshasa ou dans un village. Sur 100 habitants, plus ou moins 43 sont des enfants de 0 à 17 ans. Donc, ils ne peuvent pas travailler. 80% de cette population-là ne peuvent pas travailler. 3%, c'est des vieillards. Des vieillards comme nous, enfin des vieux comme nous, vieillards, j'exagère. À partir de 65, 66, vous êtes dans la catégorie des passifs comme les enfants, vous ne pouvez pas travailler. Donc nous faisons 50%. Enfants, jeunes, jusqu'à 17 ans, ne pouvons pas travailler. Et je compte aussi les étudiants qui peuvent avoir 20, 30 ans qui ne peuvent pas travailler. Bien, nous faisons partie de la population passive qui ne peut pas travailler. 50%. Les 50 autres pourcents, c'est des gens qui vont de 18 à 65 ans, qui peuvent travailler, donc vous autres. Vous êtes 50%. Mais malheureusement, sur ceux qui doivent travailler, qui sont aptes à travailler, et à étudier ou pas, hein, parce que quand vous êtes dans l'âge, vous pouvez faire n'importe quel autre travail, mais vous avez un emploi formel, y compris dans l'agriculture.
Et Adolphe Mouzito propose quoi?
Je propose justement qu'on prenne conscience que nous avons plus ou moins 51 millions de sans-emploi. Il faut créer au minimum par année 4 millions.
Ça passe par la formation professionnelle?
La formation professionnelle, mais surtout, d'abord, les secteurs dans lesquels il faut les employer. C'est principalement l'agriculture. Parce que nous, au fur et à mesure, l'industrialisation va venir, au fur et à mesure que le secteur primaire va se développer. Et les gros, déjà, il faut le mettre dans l'agriculture. Regardez la ville de Kinshasa, c'est 10 000 km². L'Iterland, la 80% Maluku, à lui seul, représente 8 000 km². Le reste de Kinshasa, c'est 2 000 km². Mais il n'y a pas d'agriculture là-bas, et pourtant nous mourons de faim. Il faut
mais
y mettre
que vous
la masse.
Pour leur formation, pour l'éducation?
Non, la formation-là, laissez-moi tranquille, madame. Moi, je veux vous dire que nous pouvons former chaque jour des briquetiers. Ils n'ont pas besoin de plusieurs mois. Nous avons besoin des maçons. Nous avons besoin de la masse laborieuse. On n'a pas besoin de grandes formations, mais c'est l'orientation vers un secteur qui demande beaucoup d'énergie, peu de connaissances. Les gens, un briquetier, vous les formez en une journée. Et Kinshasa, ici, vous les cadres, ici, vous n'avez pas de logement. Et pourtant, nous pouvons construire. Nous avons le bois, nous avons l'argile, nous avons les ciments. Nous avons tout ce qu'il faut pour nous loger, sans importer même un petit matériel quelconque. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, avec cette configuration où il y a une bombe atomique, le chômage, chômage le mal, on n'a même pas besoin des études. Il faut d'abord produire pour manger, même en étant illettré. Illettré, tu ne sais même pas écrire 1 plus 1.
Il faut avoir des connaissances pour aller dans l'agriculture.
Je suis en train d'exagérer, madame, la maman, ma mère, ma tante n'a jamais été à l'école. Elle peut vous nourrir ici toute la ville. Donc, les jeunes gens que vous avez qui savent juste écrire 1 plus 1 égale 2, vous les mettez dans l'agriculture, mettez-les dans la construction des maisons. Même des maisons uniquement en bois. Ça dit, bon, dans l'entretemps, nous n'avons pas de fer pour faire des clous et tout ce qu'on utilise. Là, on peut construire en bois d'un but à l'autre. On a le sable, on a le moellon, on a tout ce qui a comme grès, ainsi de suite, pour construire. Mais maintenant, à partir de ces secteurs, on peut tirer les autres. Dans l'agriculture, on peut tirer dans les logements. D'abord, la construction. Même les routes, on peut commencer à le faire avec cette armée des chômeurs. Il faut une économie de masse pour ça. Et puis le reste va être tiré par cette dynamique. Malheureusement, nous sommes entrés dans le développement par la porte des sorties. disait un professeur. C'est-à-dire que les Blancs viennent et lui, il commence avec l'agriculture, le logement, il mange bien, il commence à industrialiser. Mais en industrialisant, il se développe, il a besoin de ce qu'il n'a plus là-bas parce qu'il a tout exploité les richesses. Donc il vient ici chercher. Sa femme est déjà riche, il commence à chercher l'or pour elle, le diamant, les matières premières dont ils ont besoin, le cuivre pour continuer à construire des bateaux. Ils viennent ici pour chercher les matières premières qu'ils n'ont pas là-bas. Mais quand ils partent, nous commençons par ces matières premières dont ils ont besoin pour les réexporter. Dans l'entretemps, nous commençons par eux en faisant des logements sociaux, en faisant l'agriculture. Et nous exploitons les matières premières, on les renvoie, ils nous donnent les devises pour que nous, on importe à manger chez eux. Donc on est entré dans le développement par la porte de sortie. Donc le secteur minier, c'est le secteur par lequel on devait terminer et non pas celui par lequel on devait entrer dans le développement. Nous, on est entré dans le développement en exploitant l'or, le diamant qu'on aime, mais sans, nous n'utiliserons jamais ça pour manger. Nous devons exporter pour avoir de quoi acheter à manger. C'est comme une maman, pour nourrir ses enfants, elle doit faire des beignets, vendre et acheter les foufous nalibanda pour balia. Non, il faut ça la bilanga.
Alors, parlons justice. Il est des notoriétés publiques que le pays connaît un sérieux problème avec son système judiciaire. Récemment, le chef de l'État a même dénoncé les dysfonctionnements de la justice. Une fois au pouvoir, Adolphe Mouzito, numéro 24, qu'est-ce qu'il fait pour essayer d'améliorer l'administration de la justice dans ce pays afin que la population se sente, n'est-ce pas, satisfaite par cette administration de la justice?
J'ai dit que tout se tient si les juges sont mal payés. Vous savez, quand on regarde les trois pouvoirs, l'exécutif, les judiciaires, les parlementaires, les trois pouvoirs, mais la justice, c'est vraiment... C'est malheureux. Ils n'ont même pas 10% de ce que les autres ont. Le pouvoir exécutif, c'est lui qui prépare les budgets. Ils s'en parlent du gros morceau, la primature, la présidence, avec un gros personnel. Je n'ai pas le chiffre avec moi. On aura l'occasion de chiffrer tout ça.
Vous avez été Premier ministre. Apparemment, vous avez maintenu ce système.
Non. C'est moi
vous,
qui...
Vous l'avez pérennisé.
Non. Peut-être que vous voulez finalement que je parle. Non, c'est moi qui ai amené les juges à avoir un salaire au-delà de 1000 dollars parce que je l'ai trouvé avec 200, 300 dollars. Vous voyez ça? Moi, j'ai trouvé 1500 magistrats. J'ai recruté 2000. Je l'ai trouvé à 200, 300 dollars. Je l'ai amené à 1000 dollars. Malheureusement, tout cela a été mangé par l'inflation et par l'érosion de la monnaie avec le pouvoir qui se sont suivis après le mien. Mais j'apprécie maintenant que Tshisekedi a augmenté les effectifs, les portants de 3 milliards pendant presque 10 ans que nous avons laissé à ça. Il a porté, il a recruté 5 000 magistrats. 2500 sont en place. Le nombre est bon. Déjà, on peut aller jusqu'à... Il faut qu'on aille jusqu'à 15 000 magistrats pour respecter le ratio international qui veut que chaque Congolais soit à proximité du tribunal. Sauf que ces juges-là, malheureusement, plus de la moitié se trouvent à Kinshasa où ils n'ont même pas de bureau. Ils sont 100 dans un petit bureau. Ils n'ont même pas de clientèle parce qu'en fait, il faut déployer ces juges à l'intérêt. Il faut leur donner une prime. Il faut créer des conditions pour que la redistribution de la justice soit équitable sur l'échelle du pays et en faveur des pauvres. Mais pour cela, il faut bien payer les juges. Et même l'huissier de justice, il est incapable de vous faire un procès verbal. Il vous demande, avez-vous les justiciables, de lui donner du papier, de lui acheter les stylos. Donc, un peu pour dire qu'il faut redistribuer la richesse, les revenus budgétaires entre les trois pouvoirs pour que les trois pouvoirs se contrôlent mutuellement. Il ne faut pas que les juges soient mal payés, n'aient pas de conditions de travail, qu'on les fragilise, qu'on les vassalise par l'exécutif qui s'empare de tous les revenus au sommet de l'État et qui le fait avec le pouvoir législatif, parce que c'est le législatif qui prépare le budget. Comme autorité budgétaire, bien sûr, il prend sa part, il donne au pouvoir exécutif le gros morceau. Et le pouvoir judiciaire n'a que 20%. Et dans l'exécution, ça c'est au niveau de prévision, au niveau de l'exécution, ils ont moins de 5%.
Monsieur Adolphe Mouzito, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Vous êtes candidat numéro 24 à la présidentielle. Nous vous souhaitons bonne chance.
Merci beaucoup.
Merci madame. À Guy qui a co-animé avec moi cette interview. Merci à l'équipe technique et à l'équipe multimédia. Jonathan Fonani, Clément Chimanga, Hippolyte Kapanga. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis.
Vous venez de suivre l'invité candidat président, élection 2023, sur Radio Capi.